48 FM.
48 FM.
C'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 71e Instant Sport avec de très bons résultats ce week-end sur des matchs couperets que nous avons couverts. Julien n'est pas là aujourd'hui, mais Laurent Julien, lui, est là. Salut Laurent.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors toi Laurent, tu étais au handball, beau match à la Vernède.
Beau match, pour qu'il y ait un beau match, il faut qu'il y ait deux bonnes équipes.
Voilà, non, on a gagné, donc c'est
résumé.
Un beau match.
Non, c'était un beau match parce qu'il y a eu une belle victoire avec beaucoup de points d'écart. Après, c'était pas le match de l'année quand même, faut le dire.
C'est pas grave, on a gagné. Et un très beau saut au classement, on en parlera aussi dans cette émission.
Ouais. Premier, deuxième, non ?
Non, avant-dernier, on en reparlera. Notre journaliste sportif à la Lozère Nouvelle, Patrick Biancone, qui était au volleyball pour le choc de cette journée. Salut Patrick.
Bonjour à toutes et à tous.
Et trop naze cette équipe d'Avignon là. Ah, tu nous la vends depuis des semaines.
C'est vrai.
Avignon PTC.
Non mais il faut dire qu'on a vu un match de très haut niveau avec une superbe équipe mandoise dans une ambiance de folie. Mais on va reparler de tout ça. Et c'est vrai qu'on a passé un samedi soir vraiment magique.
Aurélien Lacaze était au rugby, lui à Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Une belle défaite Aurélien.
Bonjour à tous. Oui, une belle défaite. Mais comme disait Laurent, il faut deux bonnes équipes pour faire un bon match. C'est ça.
Voilà,
c'est malheureusement, c'était pas le RCML.
C'était pas le RCML, comme souvent à l'extérieur.
Ouais, on en reparlera aussi.
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai réécouté la bande-son de lundi dernier pour savoir si quelqu'un avait eu le bon pronostic entre Saint-Etienne et Lyon, où nous avons lamentablement échoué.
Ouais, j'étais pas loin.
Et moi aussi, j'avais 1-0. Toi, t'avais 2-1.
2-1, ouais.
Voilà. Mais j'ai entendu dire, on verra la semaine prochaine concernant la CAN, qui, entre Laurent et moi, va marquer un point. Toujours très drôle, Aurélien, dans tes pronostics. Hein.
Ouais, merci. Toujours à fond.
Voilà, alors je ne l'ai pas monté. Je le dis juste comme ça. On se rappelle que tu avais misé sur le Ghana, Laurent, sur le Burkina Faso, qui n'ont même pas passé les demi-finales, finalement.
Mais bon, du coup, on a fait...
Non, mais tu es troisième. Le Burkina est troisième.
Mais Laurent est jamais loin, mais il est jamais
loin. Ouais.
C'est ça. Un invité aujourd'hui, le passeur et capitaine du MVL, Angelo Teno. Salut.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors, merci
le roi
de
du
venir.
Capping, tu peux, hein, c'est lui qui lance le capping à la fin du match, comme les Islandais. voilà.
En plus, il y avait de quoi le lancer. Là.
Ah oui, là, ça c'est clair.
Alors, une très très bonne opération vu des playoffs. Merci d'être dans cette émission. On devait avoir Anthony Velay qui est comme d'habitude n'importe où. Il est perdu dans les Cévennes. Il avait oublié, tu le remplaces.
Et c'est, il est dans la vallée française avec sa copine.
C'est ça. Alors, avant de parler de ce match, le tirage au sort déjà de la Coupe de France où vous allez jouer contre Fréjus à la maison. Alors, est-ce que tu es content de ce tirage?
Je suis très content de ce tirage, pas par rapport en vue des adversaires qu'on peut avoir, mais surtout qu'on reçoive. C'est très important. On sait qu'à domicile, on est très fort et très compétitif, donc on est très heureux de recevoir.
Alors Fréjus, on les a battus il y a quelques semaines. C'est quand même jamais facile contre Fréjus, mais on part avec un petit avantage sur ce match.
Oui, avantage, oui et non. On a quand même perdu une fois un match amical chez eux au début de la saison. Après, on a pris une revanche là-bas et on a gagné aussi ici. C'est une belle équipe, après ça reste un match de coupe, donc il faudra faire très attention.
Voilà, c'est ce que j'allais te demander Patrick, souvent en football on dit c'est un match de coupe, c'est complètement différent du championnat, en volée c'est pareil ?
Oui c'est un peu pareil, alors il faut que tu expliques la formule, parce que donc il y a les quarts et les demi-finales en même temps.
Non, c'est vrai
que c'est vrai que la semaine dernière on était parti un peu tout azimut et notre ami Christian Martier nous avait envoyé un mail immédiatement pour nous expliquer cette formule, on ne savait pas encore... qu'on recevait, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc quart de finale, donc Mende contre Fréjus, ça sera le samedi, donc pas ce samedi mais le samedi d'après. Et donc un peu avant, il y aura Avignon contre Saint-Jean-d'Illac. On répète chaque fois, mais Saint-Jean-d'Illac c'est la banlieue de Bordeaux. Donc ça c'est les deux matchs du samedi, ça correspond au quart de finale. Et donc les deux vainqueurs se retrouveront le dimanche. Alors en principe c'est à 14h.
Amende toujours.
Voilà, toujours amende. Et donc on espère que bien sûr nos Mandois seront en finale, donc ou contre Avignon ou
en
contre
demi-finale.
En demi-finale ou contre Avignon ou contre Illac. Et donc le vainqueur, donc ça sera le dimanche en principe à 14h. Et donc le vainqueur jouera la finale parce que en même temps, le même week-end, en région parisienne, il y a un autre tournoi avec quatre autres équipes. Et donc les deux vainqueurs feront la finale au mois de mars. Et donc on croyait que c'était à Paris, mais non, ça sera à Clermont.
Je l'avais dit que c'était à Clermont, mais personne. Mais pourquoi à Clermont là ?
Je sais pas.
C'est le centre de la France.
Moi non plus, je sais pas.
Là, bon, on pourrait se choper une finale à Bercy là, et on va se retrouver à Clermont-Ferrand quoi.
C'est vrai que Costan a misé beaucoup au début de saison parce que il espérait. C'était pas Bercy, là, toutefois c'était à Coubertin. Donc enfin bref, c'était à Paris. Donc Costan nous l'avait dit en début de saison qu'il misait beaucoup sur cette Coupe de France pour faire cette finale à Paris. Bon, finalement, ça sera à Clermont-Ferrand, mais je pense aussi que ça, c'est un objectif dans tous les joueurs. Mais bon, Angelo peut mieux en parler comment.
Et du coup, ça sera télévisé quand même ? Parce qu'on disait que ça serait télévisé si c'était à Paris.
Je sais pas.
C'est télévisé pour les équipes pro. La finale pro féminine et la masculine sont télévisées, mais les nationales, c'est rarement télévisé.
D'accord.
Ça vaut quoi cette équipe de Bordeaux là à côté ?
Ben ça vaut bien parce que si tu veux on en parlera après tout à l'heure hein, mais là aussi Christian Marty ce matin m'a fait passer un classement virtuel parce que il y a encore des résultats à faire mais pour parler déjà des playoffs et donc Saint-Jean-d'Illac a un match hyper important par contre ce samedi contre Alès, donc ça va dépendre et mais s'il gagne à Alès sur un score de 3-0 ou 3-1 Illac peut largement jouer la montée en Ligue B comme nous la saison prochaine.
D'accord, Laurent.
Donc belle équipe.
Clairement, c'est cette finale à Clermont, si on a la chance d'y être, c'est quand même une très bonne nouvelle.
Ah oui, bien sûr.
On est à 1h30 de Clermont-Ferrand, et quand on sait l'apport du public dans ce sport, enfin dans tous les sports bien sûr, mais là encore plus, je trouve que c'est un gros plus pour notre équipe.
Et c'est prévu dans un mois puisque c'est fixé au 11 mars, la finale.
C'est un objectif la Coupe de France ?
Ouais, on l'a quand même dans un coin de nos têtes, bien sûr, c'est un objectif quand on arrive à ce niveau, c'est déjà les quarts de finale. Donc on sait qu'il reste deux matchs pour essayer d'aller à Clermont. D'abord, on va essayer de passer ce quart de finale contre Fréjus. Et après, bien sûr.
Après, on rebat Avignon 3-0.
Même Avignon et Illac, c'est le sort du match n'est pas bien encore. Hein.
Ouais. Ça va être intéressant d'aller le voir aussi pour les Mondois, d'aller voir cette confrontation.
Voilà, alors Avignon, le match est prévu, Avignon et Illac est prévu à 18h. Mm-hmm. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont le temps, ça fait une belle entrée en matière. Et puis après, donc, tu auras ce Mande de Fréjus à 20h. Donc ça fait deux matchs dans la soirée, quatre belles équipes qui veulent faire les playoffs. Donc il va y avoir du jeu.
Alors, on attendait ce match depuis de longs mois, depuis la défaite à Avignon, en fait, hein, oui. Patrick. Au final, donc, le MVL bat Avignon 3-7-0, 25-16, 25-21, 25-20. Du coup, au classement, le MVL passe premier avec 35 points devant Avignon 33 et Fréjus qui a 23 points, donc qui est assez loin. Comment tu as vécu, toi, le match sur le terrain ?
Ouais, on était revanchards quand même, parce que c'était notre seule défaite en championnat. En plus, on avait pas très bien joué, surtout dans ce quatrième set à Avignon, où on mène de 7 points et on les voit passer devant. Donc on s'était préparé toute la semaine. Vraiment, on a fait un gros gros travail cette semaine avec les 12 joueurs et on les attendait de pied ferme.
Quand on voit les scores 25-16, 25-21, 25-20, enfin, j'ai l'impression que vous n'avez même pas douté pendant ce match. Il y a eu des moments de doute ou pas ?
De doute, non, mais c'était un match en très haute intensité. On n'a pas eu notre passage à vide comme souvent on l'a. On a su garder un niveau de concentration très élevé et ça a fait la différence. On a pris le dessus sur service récep. On savait que c'était une équipe qui servait très bien et on a contenu leur gros service, ce qui nous a facilité le match.
Patrick ?
Oui, on a vu un match vraiment de toute beauté, avec beaucoup d'intensité. Et un début de match, moi j'ai trouvé les deux équipes beaucoup de pression. Hein. Et d'ailleurs, quand on analyse, je sais que Costan est très vidéo, et moi aussi j'aime bien noter un peu, pas point par point, mais enfin j'ai quand même une vue sur le match où j'aime bien noter tout ce qui se passe. Et on peut constater que sur quasiment les 15 ou 16 premiers points marqués par chaque équipe, il y a à peine 5 ou 6 points gagnants. Le reste, c'est ou des attaques hors, ou des services dans le filet, ou des doublés, enfin bon, des erreurs adverses. Donc on a vu que des deux côtés, il y avait beaucoup de tensions.
Ouais, c'est, et puis, ce qui s'explique.
Ouais, ça s'explique aussi des deux côtés. Bon, tout le monde connaissait l'importance de ce match. Et puis, Angelo l'a dit, mais il y a eu une série de services du côté là. On était à 8-6 ou 8-7 là au premier temps mort. Mais et donc après, une série de services aussi bien d'Ali Karboua que de Carlos Anthony. Et donc là, la réception avignonnaise, mais alors, a complètement volé en éclats. Et donc, il y a eu, bien sûr, de suite un écart. Et donc, ça explique pourquoi tu te retrouves avec 25-16 au premier set. Bon, un écart, personne ne pouvait se douter que tu pouvais avoir un tel écart, surtout dans ce premier set. Et alors, au début du deuxième set, on avait presque eu l'impression, puisque je crois qu'il y avait 12-12, où le MVL allait avoir son fameux trou d'air, là, parce qu'on perd toujours un set. Alors, ou le premier, mais bon, pas trop, mais en principe, on perd souvent le second set. Et on a cru presque que ce scénario allait se reproduire. Et puis non, après il y a eu cette égalité. Et puis après il y a eu Mand a vraiment pris le dessus une fois de plus avec un Loïc Alphonse vraiment Tony Truant à l'attaque. Bon, des centraux en feu. Et puis il faut le dire, Angelo. Je lui ai dit à la fin du match. Donc on peut pas dire que je le dis là parce qu'il est à côté de moi. Dès la fin du match, je lui ai dit, il a fait un match de toute beauté. Dans la distribution du jeu, alors c'est vrai que bon, pour ceux qui viennent là, il y a beaucoup de personnes qui sont pas la fibre volée, ils viennent là parce qu'ils
parlent de la femme de
sommet.
Laurent,
non mais c'était le match au sommet, c'était normal, il y avait un public extra large, bon, des gens qui ont vu quoi 2, 3, 4 matchs dans leur vie de volée. Et donc c'est vrai que tu te dis, tu le vois pas Angelo, parce que c'est pas lui qui marque les points, mais bon après voilà, il y a tout un tas pour bien décaler ses attaquants, c'est tout un art, un style.
Après et donc, le passeur, c'est un peu le Zidane de l'équipe, c'est quand même le numéro 10.
Ouais. Et donc il a fait un match fabuleux, et donc il a su bien orienter et bien trouver ses attaquants, bien distribuer le jeu, changer quand il le fallait. Et donc il a pris le dessus sur le capitaine adverse qui est aussi le passeur, bon Ricardo Martinez, qui lui aussi a une énorme carrière au niveau professionnel. Et donc on avait dit la semaine dernière, il y avait des duels, donc il y avait des duels de passeurs, il y avait des duels de pointus. Et donc sur ces deux postes vraiment on a pris le dessus. Et Loïc Alphonse a été vraiment supérieur à Mahoni Talia qui est en principe stratosphérique, et donc là qui a été complètement éteint sur ce match là et donc ça explique pourquoi tu te retrouves à 3-0 et avec un tel écart sur les 3-7 quoi.
Tu disais que tu es très vidéo, Laurent, aussi. NCIS, Joséphine Ange Gardien, Marseille, des trucs
Angelo,
comme ça.
Angelo, tu sauras que maintenant tes potes vont t'appeler Zinedine, hein, puisque meneur de jeu, tout, top niveau.
Non, mais c'est vrai, ce poste-là,
c'est
le poste clé. On va te dire tous les postes sont clés. Mais bon, c'est vrai que, comme hockey sur glace, le gardien de but, ben là, c'est vrai que le passeur, quand même, ça impulse le rythme du match.
Oui, Aurélien.
J'ai envie de revenir avec toi un peu sur la préparation du match. Vous l'avez préparer différemment ce match comme un match vraiment important ou c'était un match comme les autres au final et vous avez préparé ce match normalement?
Bon, on a quand même fait une très grosse semaine d'entraînement. C'était on se l'est pas dit directement, mais on savait que c'était un gros match. On était revanchard et ça s'est vu vraiment cette semaine à l'entraînement. Il y avait une très grosse intensité. Ça, les 12 joueurs étaient vraiment à fond et c'est ce qui nous a permis d'arriver avec un peu plus de facilité à ce match.
Un point sur les remplaçants de ce match. J'ai cru lire que tu disais que les remplaçants avaient permis de peut-être pas faire basculer le match, mais avaient vraiment joué leur rôle.
Oui, parce que c'est sûr, dans un match comme ça, c'est difficile parce que le public est là et il voit qu'il ne rentre pas. Mais toute la semaine, je vous assure qu'ils ont fourni un tel travail et une telle intensité qui font qu'on arrive contre Avignon et qu'on est dans le rythme, quoi. On n'est pas surpris, on a eu toute la semaine, on a eu Canto, il était monstrueux à l'entraînement cette semaine, même Robin. C'était...
D'ailleurs, il s'est relâché ce week-end. On l'a perdu dans les Cévennes.
C'est vraiment
le travail du groupe. Peut-être qu'on peut dire le 6 de départ, parce que du coup, pour ceux qui n'y étaient pas.
Ben, le 6 de départ, ben, Angelo à la passe. Ben, après, il y avait
Loïc à la pointe,
Carlos Anthony, Ali Karboua. Après
Mousset et Olivier Favre
moi, qui rentre après suivant le libéro, qui remplace un central, Anthony Chaillou qui rentre sur les postes arrière, enfin, les trois postes quand il
c'est celui que tu avais annoncé de 6 de départ.
Oui, il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là.
Quand on démarre la saison cette année, on s'attend à une si belle saison ou vous êtes quand même étonné de votre niveau?
sincèrement, ça fait, enfin, moi, ça fait la deuxième année que je suis arrivé ici. Il y avait un gros objectif. L'année dernière, déjà, je savais qu'on avait une belle équipe. Et après, vu le recrutement qu'il y a eu, il y a eu quelques joueurs qui sont arrivés, mais c'était vraiment des joueurs de très bon niveau. Donc, on savait qu'on a une équipe très compétitive. Après, je me rappelle, Christian Bartier, au début de l'année, il m'a dit « Bon, moi, je fais un pari, ça sera Avignon, Fréjus et Mende qui finiront le classement de cette poule. » Il a dit « Qui c'est qui parie avec moi ?» Moi, en rigolant, j'ai dit « Moi, je parie. » Et j'ai dit que c'est nous qu'on va être premier. Donc, et au final, je pense qu'on a des chances de finir premier. Il faut juste gagner ce match à Cantleux là, qui reste. Mais je pense qu'on est quand même conscient de la qualité de ce groupe et de là où on peut aller. C'est ce qui fait aussi notre force. On est en train de progresser mentalement et prendre conscience du niveau qu'on a.
Non, mais Aurélien parlait de l'état d'esprit avant le coup d'envoi. L'échauffement était presque terminé. Et puis Anthony Velay est venu me saluer. Donc on a un peu discuté tous les deux. Et puis d'entrée, il m'a dit... tu vas voir, ce soir, on est à 4000, on va les exploser. Non seulement, il m'a dit, non seulement on va gagner, mais en plus, on va les atomiser. Et bon, un matin, je me suis dit, ils sont vraiment remontés à 4000. Et puis finalement, bon, le scénario du match lui a donné raison, mais ça prouve bien quand même dans quel état d'esprit toute cette équipe était. Et donc, chapeau à tout ce groupe et aux entraîneurs, bien évidemment, et puis aux dirigeants qui étaient aux anges, et c'est normal, et on a retrouvé un peu, moi, ça m'a fait penser, alors dans un autre contexte, mais il y a quelques années, quand le Grand Tour était venu en Coupe de France, alors la Coupe de France, là où tous les professionnels et les amateurs étaient mélangés, et donc on avait eu Hervé Ngapet sur le terrain du Piancourt, donc c'était autant blindé, bon, il n'y avait pas la même intensité, forcément, puisque les débats étaient quand même déséquilibrés par rapport à cette équipe professionnelle, avec le meilleur joueur du monde qui jouait à Tours, mais bon, voilà, et donc, petite anecdote quand même, on a vu à ce gymnase de Piancourt, bon, des gens qui sont arrivés un peu limite, hein, le match était à 20h30, les gens sont arrivés parfois à 20h25, 20h30, 20h35, mais ceux qui sont arrivés à ce moment-là, certains ont vu qu'ils avaient plus de place dans les tribunes, ils n'ont pas voulu rester debout, et donc il y a des gens qui sont repartis. Et,
ils sont partis au Wanda.
Voilà, donc, mais c'est quand même, il faut quand même le souligner. Donc, c'était blindé, et même Christian Bartier, quand il a été mis au courant de cette situation, a demandé à certains de venir sur le parquet. C'est-à-dire qu'il y a des spectateurs qui étaient assis tout autour du terrain pour suivre le match, mais directement sur le parquet. Donc voilà, on le voit pas souvent, c'est quasiment du jamais vu.
On le voit pas dans tous les sports.
Il y a eu vraiment un engouement populaire, et c'est vrai que c'est fabuleux parce que les gens, on parle de, c'est sûr que les gens viennent de Mende, mais là ça venait de toute la Lozère. Donc chapeau, ça s'appelle Mende voler Lozère à juste titre.
Tu parlais de Tours, là, de Ngapet. J'ai vu aussi que le père d'Erwin Ngapet, qui est un grand monsieur du volley aussi,
oui,
a félicité le club sur les réseaux sociaux, donc qui suit aussi l'actualité de notre club.
Bien sûr, mais tu sais que Erwin Ngapet, donc le père est originaire du Cameroun, comme Costin. Donc il y a des liens vraiment très forts entre les deux. Et c'est vrai que le mentor de Costin, c'est le père, je ne sais plus comment c'est son prénom. Eric, voilà, Eric Ngapet. Et donc c'est vrai qu'ils sont souvent en lien. Et je sais qu'il y a des conseils qui sont. Il y a une transmission quand même entre voilà, Eric Ngapet, qui a une carrière immense, et donc Costin, qui lui voilà, a vraiment aussi un cursus très intéressant comme joueur, mais aussi comme entraîneur, et qui commence vraiment à être connu partout en France.
Champion d'Afrique sur la CAN, le Cameroun.
Hein, au football.
Un peu au football, mais oui, c'est ça. Là, bon, tu l'as expliqué, on veut gagner ce dernier match pour terminer premier. Ça ne changera rien au classement, vu que de toute façon, les quatre qui vont se qualifier en play-off, vous avez déjà joué les uns contre les autres. À part peut-être Amiens, on disait à Luin, où ça peut changer, mais on n'en est vraiment pas sûr. Pour vous, ça ne changera rien, vous terminerez premier. Qu'est-ce que je voulais te demander comme question ? Je me perds. On finit premier, on aborde les play-off en situation, on va être premier ou second. On va en parler justement ce mélange de poules. Ouais. Là, dans les têtes, on l'a quand même la probée là.
Oh là, oh, allez. C'est encore loin, ça.
Allez, dis-nous.
Il reste 8 matchs. Enfin, 9, ouais, 9 en comptant le ouais, dernier, mais il reste 8 matchs de play-off.
Ouais. Et 8 matchs avec une grosse intensité aussi.
T'as réussi ton premier pari pour dire le classement. Maintenant, tu vas faire un deuxième pari.
Dans cette émission.
En direct. On enregistre.
Bien sûr que. Déjà, ce que je suis content, c'est qu'on a pu garder, on va dire, entre parenthèses, notre destin entre nos mains quand même. Parce que, voilà, si on gagne tout, on finira champion. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'autre échappatoire. Donc, c'est déjà une grande force, je trouve, d'arriver à ce moment-là de la saison et de dire on a encore le destin entre nos mains. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça, qu'il reste beaucoup de temps, beaucoup de travail à effectuer encore, beaucoup de paliers à passer.
Donc, ça veut dire que vous allez le jouer à fond, quoi, cette montée.
Bien sûr, que ça soit la montée. Bien sûr. On est motivé, que ça soit pour la coupe, pour le championnat. On est allé dans le long en ce moment, on a envie de tout prendre. Donc on va essayer de continuer, mais c'est difficile. On sait qu'on a encore de belles équipes, on a IAC, Épinal, on a même vu qu'il y a peut-être Grenoble, peut-être Alès, il y a encore quelques belles équipes.
Il faut éviter les blessures, hein, surtout. On va essayer de ne pas s'amoindrir.
Bien sûr, il faut éviter les blessures.
C'est pareil pour les autres. C'est l'équipe 1 d'Alès ?
Oui, c'est l'équipe 1.
Patrick.
Non mais alors tu parlais de ce classement des play-offs, donc
parce que là, maintenant,
il faut dire un grand merci à notre ami Christian Bartier qui a eu la gentillesse de faire les calculs pour moi. Donc avant de venir à cette émission, je m'étais dit qu'il fallait que je me lance dans ces calculs, et donc ce matin j'ai eu la surprise, l'heureuse surprise, de voir que papy avait calculé pour moi. Donc il part sur une base où Alès va se qualifier. Et donc, ça donnerait premier mande avec 14 points, à égalité avec Épinal, 14 points.
Juste, je rappelle, les deux premiers sont montés.
Voilà. Donc, Avignon serait troisième avec 13 points. Et donc, après, donc il y a un énorme match ce week-end entre Alès et IAC, donc qui, lui, va influer énormément sur la suite des play-offs. Donc, si IAC gagne à Alès, IAC aurait 13 points. Et donc, Alès n'aurait que 8 points. Si c'est Alès qui gagne 3-0 ou 3-1, Alès aurait 11 et IAC aurait 10. Donc, on voit bien qu'on se dirige vers 4 ou 5 équipes pour 2 places, puisque, comme tu l'as dit, les deux premiers vont monter. Donc, on peut dire adversaire, Épinal, Avignon, on le savait.
Sachant qu'on ne rejoue pas contre IAC, Avignon, il faut le rappeler. Voilà.
Donc, on va jouer deux fois contre Épinal, on va jouer deux fois contre le CNVB. Alors là aussi, le CNVB qui n'a pas gagné un match, mais la fédération le met automatiquement en play-off. Donc, ce qui explique que Grenoble ou Caudry risquent de passer à la trappe, même les deux, peut-être.
Patrick, donc, c'est mieux pour notre poule que pour la leur, parce que nous, on va pouvoir avoir un match un peu plus facile, entre guillemets, contre les équipes jeunes, qu'eux vont se taper Aimande et Avignon et Fréjus.
C'est vrai que les autres équipes ont gagné déjà deux fois contre le CNVB. Mmh. Donc nous, c'est des matchs a priori abordables. Alors lui, je sais déjà ce qu'Angelo va dire. Il monte en puissance. Le CNVB, il s'entraîne tous les jours. C'est les jeunes, c'est les futurs stars et futurs pros de demain. Et donc il monte en puissance. Et donc c'est vrai qu'en play-off, en principe, ils sont toujours plus forts que dans la première phase.
Bon, alors, voilà. Par contre, tu dis qu'on aurait seulement un point d'avance sur Avignon. Là, je comprends pas, puisque on en a déjà deux.
Non, on en a un là.
On en a qu'un.
On en a deux là.
On en a deux. Tout à l'heure, tu as dit on a 14 et 13.
Oui, ils ont perdu un point à Cantleux.
Et oui, Cantleux, ils sont pas qualifiés.
Donc, voilà. Donc
les gars,
voilà. Exactement. Ah oui, ok.
Toujours pareil.
Ouais, c'est pour ça, c'est pas contre Luyen qu'ils ont perdu ?
Ils ont perdu aussi deux points contre Luyen.
C'est pour ça qu'on a un point de plus que parce qu'ils ont perdu contre Luyen.
Mais bon, Luyen qui risque d'être qualifié.
Voilà, c'est pour ça qu'ils ont un point de moins. Donc c'est pour ça que pour nous c'est intéressant que Luyen soit qualifié, parce que Luyen prend un point à Avignon.
Ouais.
Parce qu'après, il y aura quand même 8 équipes, mais on n'a pas parlé des autres parce qu'ils sont déjà éliminés.
Par exemple, un club comme
Luyen ou Fréjus va commencer avec 6 points. Bon, nous on est déjà 14. C'est totalement impossible. Mathématiquement, c'est possible. Mais on ne voit pas trop comment ils peuvent.
Oui, mais enfin, bon, il y a des équipes qui vont peut-être perdre des points contre ces équipes-là.
Oui,
et ça va forcer.
Bien sûr. Ça peut nous arranger.
Ça va compter quand même.
Parce qu'Épinal, par exemple, a déjà perdu 3 matchs.
Oui,
Contrairement à nous qui avons perdu qu'un match à Avignon.
Ils sont égalité avec nous parce qu'ils ont perdu un match contre une équipe qui ne va pas se qualifier en play-off. Mm. Donc ce match-là ne compte pas.
Ce qui veut dire qu'ils ont quand même perdu durant leur championnat. Ils n'ont pas fait exprès de perdre.
Exactement.
Voilà. Ça t'inspire quoi, toi, cette possible poule? Enfin, on l'a quasiment, hein, il manque que quelques équipes, mais ça t'inspire quoi?
Ça m'inspire une poule très compliquée. On sait qu'on va avoir des gros matchs. Je pense déjà il va falloir qu'on soit intraitable aussi à domicile. C'est la première chose. Ça fait un petit moment qu'on l'est. Et en plus, je voulais vous souligner quelque chose tout à l'heure que j'ai pas eu le temps de parler, c'est surtout ce public qu'on est en train de découvrir. Depuis l'année dernière, ça commence à évoluer. Je trouve que c'est passé. Au début de l'année dernière, ils étaient un peu spectateurs. Maintenant, on voit vraiment des supporters et ça nous donne vraiment des ailes pendant le match. C'est très, très important. il faut qu'on soit, que Piancourt devienne imprenable. Ça serait vraiment une belle chose pour ces playoffs.
Il faut savoir qu'après chaque émission, Patrick vous fait gagner 10 spectateurs, quoi.
Non mais tu parlais des spectateurs.
Il est dithyrambique.
Il y a eu un duel au sein de tribune, puisqu'il y avait quelques supporters d'Avignon et les plus chauds, ceux qui sont derrière.
Les ultras.
Voilà, qui sont en virage, qui ont le mégaphone. Et donc, il y avait une dizaine d'avoir fait le déplacement jusqu'à Mende. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un peu ce duel en tribune entre supporters. Et donc, c'était sympa, c'est resté. Bon voilà, c'est resté dans les normes et donc ça a contribué aussi à cette belle ambiance.
Allez, on rappelle, prochain match pour du beurre, si ce n'est pour le prestige de terminer premier, contre
Canteleu.
Et après, donc les playoffs commencent direct.
Après, il y a la Coupe de France.
Et dans trois semaines.
Voilà. Donc le 25, début des playoffs.
On n'a pas, donc tant que c'est pas terminé,
En principe, comme on risque de finir premier, je crois qu'on commence par le quatrième. Donc le quatrième, ça devrait être le CNVB.
Ça se passe comme ça, c'est
ouais, je pense que le premier match, ça devrait être contre le CNVB.
À domicile.
À domicile ou à l'extérieur, je ne sais pas.
Ah, c'est bien, on ne se rend pas encore monté en puissance, là, si c'est que le premier match. Bon, mais parfait.
Non, mais il faut pas les prendre de haut, ces jeunes du.
Bien sûr. Ils n'ont rien à perdre et ils sont sans cesse progression. C'est quand même l'avenir du volley français.
Donc, c'est basé où ce club-là ?
C'est à Montpellier. Oui, c'est un centre national en fait. C'est
le meilleur joueur. Pôle, tu vois.
C'est comme Clairefontaine, mais à Montpellier voilà, pour le volley.
C'est ça, tout à fait.
Ok, il faudra leur mettre un
peu. Ou Marcoussi pour le rugby. Voilà, donc là, c'est à Montpellier, c'est vrai.
On va essayer de faire des tactiques pour les impressionner quand ils arrivent.
On s'en occupe.
Tu les accueilleras, Laurent ?
Ouais.
Avec ton mec.
On les accueille à Valtiège déjà.
62.
On va les escorter.
Allez, ok. En tout cas, merci beaucoup, Angelo, d'être venu dans cette émission. C'était extrêmement intéressant. On va poursuivre avec les autres résultats lozériens. Alors, eux, non, c'est pas pareil. C'est le rugby. Le RCML Aurélien qui perd 28-0 contre Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. 4 essais, 4 transformations. Alors, j'imagine qu'il n'y a rien à dire sur ce match.
Voilà, mais à partir de maintenant, on va arrêter les superlatifs positifs. Et effectivement, parce que là, je crois que... On ne peut pas les sauver les rugbymen au moins sur ce match-là. Ils ont été complètement inexistants, notamment en première mi-temps. Il y avait déjà 3 essais à 0 à la mi-temps, 21-0. La première mi-temps, ils n'ont pas touché un ballon, pas du tout d'envie, ils n'étaient pas du tout présents dans les rucks, dans les regroupements. Dès qu'ils avaient un petit peu la balle, qu'ils essayaient de faire des attaques et d'aller au large, il n'y avait pas de soutien sur les regroupements. Donc vraiment une première mi-temps à vite oublier.
Ouais, donc du coup, après
l'effectif 3... était au complet ou comment ça s'explique ça de se foirer comme ça?
C'est qu'on est à l'extérieur. Hein.
Bah non, ouais, déjà, alors je sais pas si l'effectif était au complet ou pas. Déjà, ils étaient 15 sur le terrain, ça
oui,
c'est sûr.
Déjà,
il y avait des remplaçants qui étaient titulaires, j'ai vu sur la feuille de match. Ouais, je sais pas qui manquait, mais.
Non, il manquait quelques joueurs.
Il manquait Mathieu Boursier, un pilier, donc un énorme joueur au niveau de l'impact physique.
J'ai pas vu Kylian Arnal aussi, numéro 9.
C'est ça.
Il manquait aussi.
Il y était pas.
Non, mais. Je pense que c'est pas une excuse parce que vraiment même dans l'envie c'était pas du tout présent quoi. Même dans l'envie, dans le combat, on sait que c'est une notion très importante au rugby. Ils étaient vraiment restés à Mende quoi. Toutes ces valeurs là étaient restées à Mende. Alors en plus ils jouaient sur un terrain synthétique, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Mais d'ailleurs Louis Morisson, l'entraîneur joueur est sorti à la 20e minute parce qu'il s'est fait la cheville un peu sur ce synthétique qu'il affectionne pas forcément.
Pas bon pour lui, ouais.
Ouais, donc
t'as pu lui parler un peu ou pas, non?
Si, je lui ai parlé après la fin du match.
Et comment il analyse, lui
Mais il était pas... Bon, bien sûr, il était déçu de la défaite et de ce zéro pointé, mais il était pas aussi déçu que les derniers déplacements où ils avaient fait jeu égal quand même avec les équipes, même s'ils avaient perdu. Là, vraiment,
tu perds,
ouais,
tu perds.
Il était... C'était pour lui normal parce que il s'est très vite rendu compte que l'équipe n'était pas à son niveau et que vraiment l'envie n'était pas là.
Ok, Angelo, tu suis d'autres sports sur Mende ou pas?
Oui, je suis beaucoup le sport quand même. J'ai vu déjà des très beaux résultats l'année dernière. Il y a eu 4 montées. Je suis encore un peu le rugby, le foot, bien sûr le hand aussi. J'ai quelques connaissances maintenant un peu de partout dans tous les sports.
Ouais, le hand, mais après, ils jouent en même temps que vous, le hand, souvent.
Ouais,
c'est compliqué.
De temps en temps, le dimanche, j'essaye d'aller voir quelques matchs de foot ou de rugby, quand le temps m'y prête.
Ben oui. Et Patrick?
Mais d'ailleurs, il y a un match en retard dimanche là, pour le RCML qui reçoit au chapitre à 15h Sijan. Donc un gros match puisque Sijan
est deuxième.
Voilà, ouais. Qui est deuxième de cette poule. Et donc il va falloir cravacher quand même pour le RCML parce qu'on est quand même décroché par rapport aux cinq premiers. Et donc il va falloir se battre pour être
qualifié. C'est pas les
6
premiers qui étaient qualifiés.
Ouais, si. Donc c'est pour ça, mais il va falloir.
Alors, donc Louis m'a expliqué, c'est les 7 premiers qui sont qualifiés.
Alors, puisque,
donc le premier plage d'orbe est directement qualifié. Et ensuite les barrages se font
de 7, 3, 6, 4, 5.
Voilà, ouais, le deuxième reçoit le 7e, le 3e reçoit le 6e et le 4e reçoit le 5e.
À l'heure actuelle, on recevrait justement 6 gens. Si on était en play-off, vu qu'ils sont deuxième et qu'on est sixième.
Ouais, mais tu te déplacerais.
Tu te déplacerais.
Ah non, 2-7, 3-6. Non, on irait à Lunel.
Ouais, tu irais à Lunel, ouais.
Voilà, alors Plage d'Orbe, 56 points, Sijan 41, Lunel 39, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup 33, Bédarieux 33, et nous avec un match
et
de moins 25. Le 5e.
Le 4e reçoit le 5e.
Allez, on va
Donc, en sachant que donc il leur reste au Mandois 3 matchs à domicile et un match à l'extérieur à Plage d'Orme contre le premier vaincu. Donc ce match à l'extérieur, effectivement, Loïs il comptait pas trop dessus, mais l'objectif, c'est 3 matchs à domicile pour accrocher la 7e voire la 6e place.
Hein. Et plus, après c'est terrain neutre.
Mais Plage d'Orme en plus qui lâche rien puisqu'ils ont encore gagné là, je crois que c'était contre Bédarieux ce dimanche. Et il y a eu une générale absolument hallucinante. Bon, j'ai eu quelques échos, on peut le voir sur Internet. Et donc, 4 cartons rouges, 2 de chaque côté. Donc, même s'ils sont invaincus, qu'ils dominent outrageusement, ils ne veulent rien lâcher.
Contre qui, là, ils jouaient?
Je crois que c'était contre Bédarieux.
D'accord.
Et donc, il y a eu un match vraiment à l'ancienne.
Ok. Le handball, grosse victoire à la maison du MGC, 38 à 23 contre Montluçon. Laurent, tu étais notre envoyé spécial, 18-15 à la mi-temps. Le retour de Maxime Joubert après 6 mois d'absence et au final, on parlera un peu des statistiques des joueurs. Rien à dire sur ce match. Hein.
Bon, ça a été un peu compliqué, tendu les 20 premières minutes. Donc Montluçon a quand même posé quelques soucis début de match. Et puis après, bon, après ça a déroulé. Dès que le MGC est passé devant vers la 20e, il n'y a plus eu de match. Donc bon, on a vite compris que Montluçon était logiquement dernier au classement parce que c'était pas.
Enfin, ils n'y étaient pas avant ce match dernier. Hein.
Si, c'était déjà dernier.
D'accord.
Voilà, c'est une équipe qui n'a pas de ressources mentales non plus, pas de joueurs. Enfin bon, ils étaient venus comme ça, quoi. Sur Allier FM aujourd'hui, ça rigole pas.
Ça rigole pas. Ouais.
Non, mais bon, je veux dire, c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver Maxime en défense. On a tout de suite vu sa hargne et sa combativité qui a permis
6 mois d'absence
à booster tous ses camarades. D'ailleurs, il avait déjà le brassard pour son premier match. Il était capitaine. Et puis des belles attaques, bon match. Rien à redire. Maintenant, il va falloir le confirmer, ce qui va être compliqué, puisque ce week-end, il faut se déplacer chez le premier.
Qui est plus premier, puisqu'ils ont perdu.
Ah, ils ont perdu.
Allez. Donc, ils sont troisième. Saint-Priest est troisième. C'est Saint-Flour qui repasse devant.
Alors, justement, classement, Aurélien.
Alors, le classement, donc, Saint-Flour est premier avec 27 points. Deuxième, Valence, 26 points. Troisième, Saint-Priest, 25. Quatrième, Bourgoin-Jallieu, 25. Et puis, descend un petit peu dans le classement et Mende donc qui se retrouve 10e sur 12 avec 15 points.
Voilà, égalité avec Voron-Velin, Montluçon est dernier avec 12 points, mais on n'est qu'à 1 point de Voiron et 3 points de Saint-Génis-Laval.
C'est surtout Saint-Génis-Laval qu'il faut aller chercher.
Voilà, parce qu'on sait que les 3 descendent, voire 4, donc il faudrait être. Mais on n'est qu'à 3 points, donc tout se joue. Côté stats pour ce match, Nové 5 arrêts, Roche 12 arrêts, après Room 6 sur 7, Coste 5 sur 7, Chanière 4 sur 6, Pot 7 sur 9, Catalin 3 sur 4, Cavalier 2 sur 2, Bartolome 4 sur 7, dont un penalty, Joubert 1 sur 1. Allègre 1 sur 1, Mizuni 5 sur 9, Laurent Julien 12 bières. Et rien à dire sur ce match.
Zéro but. Et
tous les joueurs ont marqué alors.
Oui,
tous les joueurs ont marqué et des bonnes stats.
Je voulais parler juste de Gaëtan en goal. Gaëtan Roche qui a fait une très grosse deuxième mi-temps, qui a fini d'écœurer en fait les attaquants de Montluçon.
12 arrêts, ouais.
Oui, parce que tu parlais du retour de notre pilier défensif Maxime Joubert, mais il y avait aussi le retour d'Olivier Cavalier au poste de pivot. Donc ça, c'est pas négligeable.
Alors, par contre, Olivier, il a fait une petite boulette assez rapidement. Il s'est pris 4 minutes. Donc du coup, on l'a pas trop vu sur ce match.
Deux fois 2 minutes, il a pris
Un seul coup, ouais. Ben,
ah,
en fait,
tu peux
il a
prendre
4
minutes.
Il a gueulé, quoi. Il a pas avoiné un adversaire, il a juste ouvert sa bouche sur l'arbitre, et bon, l'arbitre est susceptible d'un handball.
Et donc, du coup, tu peux prendre 2 fois 2 minutes.
Ouais, après, 2 minutes pour exclusion et 2 minutes pour contestation.
Voilà. Ouf. Et donc, du coup, par précaution, puisque tu sais, quand tu prends un troisième carton, une troisième 2 minutes, tu prends un rouge, c'est fini. Donc du coup, il est rentré que vers la fin du match par précaution.
Il a marqué combien de buts, j'ai dit ?
2 sur 2.
Par contre, bah, oui, l'équipe adverse a pris un rouge direct aussi, ce qui a permis d'éliminer un joueur assez rapidement côté Montluçon-Nez. Sur une jolie cravate sur Erwan Pot, là, il l'a chopé bien comme il faut. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire.
Et il y avait le retour aussi du jeune gardien qui était blessé en fin de première partie de saison.
Robin Novaïs,
qu'on en a beaucoup parlé. Donc ça donne une solution aussi.
Bon match de Jérémy Roux aussi, qui s'est bien relancé. Là,
voilà, ce qu'on peut dire, c'est que...
Tout le monde a été bon. Voilà.
Tout le monde a été bon. On voyait surtout une situation difficile pour cette équipe du MGC, avec une rétrogradation qui tendait les bras. Et au final, on est dixième avec 15 points. On n'est qu'à 3 points de celui qui ne sera pas relégué, voire à 1 point si le quatrième non-relégable n'est pas relégué.
C'était évident que c'était le match à gagner. Donc je l'avais dit la semaine dernière, quand on choisissait quel match on irait voir ce week-end. C'est sûr que s'il n'y avait pas victoire sur ce match, il y avait automatiquement une descente en fin de saison. Donc c'était un match très très important.
Là il y a victoire et 38 à 23 hein, parce que voilà, 38 à 23 quand même.
Ouais, parce qu'en plus c'est Montluçon qui perd régulièrement ses matchs, perdait d'habitude que sur des 2-3 points, un peu comme le MGC en première partie de saison, ils perdaient pas beaucoup mais perdaient. Et là cette fois-ci ils ont explosé.
Allez, tant mieux.
Non, vraiment, c'est un nouveau championnat qui commence. C'est vrai qu'après un mois et demi de trêve, ce match-là, il fallait le gagner. Il était très important. Mais là, il y a une nouvelle dynamique qui va se mettre en place grâce à cette victoire. Et c'est vraiment un nouveau championnat qui commence pour eux, je pense.
Et ils sont toujours meilleurs en deuxième partie de saison. On le sait.
Ah, mais il va falloir faire maintenant quelques exploits à l'extérieur. Et pourquoi pas ce dimanche, même si Saint-Priest joue la montée. Donc, une grosse équipe en face.
Saint-Priest qui a perdu de 5 buts à Saint-Géniès-Laval.
Et qui est 8e.
Donc, Saint-Géniès-Laval qui était venu à Mann, on avait vu une équipe... je ne sais pas si j'étais, Patrick.
Non, j'étais
équipe,
pas, mais...
je crois que c'est la plus mauvaise équipe que j'ai jamais vue. Et qui se retrouve 8e. Non, c'est vrai, il y avait... avec 7 points d'avance.
Voilà, on menait 7 buts. Ouais.
Quasiment à mi-temps, quoi. Et on avait perdu 1 ou 2 buts à la fin du match.
2 buts.
Le hand, il y a quand même des résultats...
C'est vrai. Ouais. Allez, football, l'AFL ramène un bon match nul de Borgo en Corse. But pour Borgo à la 75e et à la 81e contre un doublé de Gourma, 61e et 90e sur pénalty. Voilà. On cherchait les statistiques de savoir combien de matchs on avait perdu sur la fin. On attendait que Julien nous donne cette semaine les matchs qu'on avait gagnés sur la fin, mais il n'est pas là. Hein, tu as remarqué, quand il doit bosser, il ne vient pas, il fuit. En tout cas, celui-là, ça peut être considéré...
Celui-là, il rentre dans les deux statistiques, puisque il y a 15 jours, on parlait des buts encaissés à partir de la 75e. Bon, mais là, on en prend un à la 75e et un autre à la 81e.
Oui, mais on en marque un à la 90e.
On en marque un à la 90e et c'est très bien.
Ouais.
Bravo à Fadil qui n'a pas tremblé pour marquer ce fameux pénalty à la 90e.
Ouais, il est solide, Fadil.
Surtout en Corse, c'est jamais évident.
Surtout en Corse, déjà, c'est très bien pour l'arbitre les siffler.
Voilà. C'est vrai que c'est pas tous les arbitres qui sifflent le pénalty contre le club Corse à la 90e quand le score est de 2-1.
Voilà, c'est ça. Donc bravo Fadil, puis bravo à toute l'équipe qui a su relever la tête, parce que quand tu prends un but à la 81e, tu sais qu'il te reste que 10 minutes pour faire quelque chose. Bon, c'est bien, bravo à tout le monde.
Un atterrissage mouvementé, parce qu'il y avait énormément de vent. Donc l'aéroport de Bastia, ça a un peu tangué, et puis le match même joué sous la pluie, donc dans des conditions un peu spéciales. Et puis bon, Borgo, moi, j'avais vu le match aller où Borgo s'était imposé 3-2 au chapitre, hein. Bon, même si on aurait pu égaliser à la dernière seconde, puisqu'il y a eu une tête sur la barre d'un joueur de l'AFL.
De Pierre Tessier.
Et donc, un bon résultat 2-2. Et on voit que, d'ailleurs, sur les autres scores, il y a beaucoup de matchs nuls. On voit que, c'est serré. On est dans les périodes hivernales. Les matchs sont hyper serrés.
Avec des surprises. Enfin, une surprise, notamment Clermont Foot qui va gagner à Loing-Cuiseau 2-0.
Ouais.
Aurillac qui éclate 4-0 Bourgoin-Jallieu. Donc les premiers, là, ils ont morflé là, sur ce week-end.
Oui, parce que Saint-Priest a fait que match nul. Donc,
Voilà, et du coup, on se retrouve à la 8e place avec 14 matchs. à peu près comme ceux de devant, 20 points, égalité avec Aurillac 2 qui a 20 points, à 1 point de Saint-Etienne 2 qui a 21, Limonest 22. On est à 3 points du 3e et à 4 points du 2e finalement.
Alors il y a le match en retard contre Cournon,
samedi.
Ce samedi, à 18h30.
Cournon qui est avant-dernier. Hein.
Voilà, au chapitre. Donc,
victoire impérative.
Exactement.
Enfin, impérative, pour pouvoir continuer à aller un peu plus haut. Puisqu'il n'y a pas de danger pour
on se rend compte qu'on a déjà fait un écart.
Pour faire une bonne fin de saison.
Voilà, on a fait un écart sur les quatre derniers, un écart très important. Donc, comme le dit Laurent, on n'a aucune crainte pour le maintien. Donc, maintenant, il s'agit de rendre la fin de saison intéressante. Et donc, il faut gagner Cournon pour justement basculer dans cette première partie de championnat et pourquoi pas accrocher une des cinq premières places.
Oui, après, il ne faut pas terminer second, hein, parce que ça ne sert à rien. On le rappelle.
Si, parce que je crois qu'il y a les meilleures secondes de certaines poules qui peuvent quand même monter.
Bah attends, à 4 points alors.
Et donc, l'année dernière, il y a des secondes qui sont montées. Enfin, mais d'ailleurs, je crois que Montpellier, je crois qu'elle fait partie des meilleures secondes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que sont montées en CF. Hein. Donc, les meilleures secondes parfois peuvent monter.
Ah, ouais. Ça change tout ça.
Yes.
Bon, parfait. Un de chute pour la FL2 chez le second. Chusclan, Laudun qui perd 4 buts à 1. But de Rouvière à la 72e pour la FL. Alors, notre ami Julien m'a envoyé un peu le résumé de ce match en me disant qu'en finalement, ils étaient 12 joueurs avec Max, le coach, qui a dû jouer. Il y avait Jules Rouvière de la 3e, Anthony Chaz, U18, 1-0 à la mi-temps, une mi-temps plutôt équilibrée. Puis seconde mi-temps, un but sur coup franc. Un autre un peu litigieux, mais c'est Julien qui me l'a dit, donc faut faire attention. Et la FL qui se découvre et qui prend un but à la fin, qui perd donc 4-1 contre le second, mais nous avons un match de moins. 39 points pour Mende premier, Chusclan, Laudun 36 points, un match de plus, Saint-Privat 36, etc. Oui, Laurent.
Ouais, ben là on rentre dans une période délicate au niveau des organismes, quand on joue au football et qu'on s'entraîne aux Côtes d'Auge, qui fait froid, les terrains gras. On arrive dans la période où il y a des blessés à tous les niveaux, en équipe 1, en équipe 2, et du coup il faut composer. Certains joueurs de la 2 montent en équipe 1. Et ainsi de suite, de la 3 qui ne sont pas forcément préparés physiquement, qui viennent dépanner en équipe 2. Donc je pense que toutes ces séries-là de blessures sont la cause de cet échec. Et puis une équipe adverse qui était ultra motivée de jouer contre le premier invaincu avec le début de championnat qu'on sait de l'équipe 2. Donc voilà, il y a des raisons à cet échec, mais bon, va falloir rebondir. On sait que c'est une période très compliquée par rapport aux blessures. Donc voilà, il faut se remobiliser, se soigner, pas prendre de carton rouge de suspension bête et passer ce fameux mois de février qui est très compliqué dans le football.
Alors ils sont partis à 12 et Julien était remplaçant. Ouais, je rigole,
non,
je sais pas.
Vrai. Julien était dans l'Oise.
Il était dans l'Oise.
Ah, vous avez regardé.
Non, mais si tu peux, pour préciser, pour en finir sur la FL, je crois qu'il y a le match de Coupe Lozère. Gare Lozère,
mercredi à Vergès.
Voilà, ce mercredi à Vergès, donc juste avant Cournon. Donc on sait qu'il faut aligner au moins 6 joueurs de l'équipe première.
Voilà, moi je me mouille
donc,
plus maintenant.
Moi non plus, c'est vrai que là ce règlement est là aussi très complexe. En tout cas il y a ce match je crois que c'est les 8e de finale. C'est les 8e de finale. Donc Coupe Gare-Lozère, Vergès, AFL.
À l'extérieur.
Mercredi, ouais, à l'extérieur.
Ok. Allez, on va vite passer sur les autres résultats. En honneur régional, Marvejols perd.
Vergès, équipe de PHA.
Oui, donc qui joue contre la réserve de AFL.
D'accord. Marvejols perd 2-0 à Lunel. J'ai l'impression qu'il joue toutes les semaines contre Lunel. Des Lunel Marvejols, on en parle toutes les semaines. Enfin bref.
Et quand il joue pas contre Marvejols, Lunel il joue contre l'équipe du rugby mandoise. Donc c'est vrai qu'on a toujours Lunel. Quoi.
Ouais, c'est ça. Alors défaite 2-0, Marvejols qui reste au milieu du classement avec 25 points, mais qui a que 10 matchs quand les autres ont 12, 11, 13, etc. Des échos sur ce match rapidement.
Oui, la partie a basculé en deuxième mi-temps puisqu'il y avait 0-0 à la pause. Il y a un joueur de Marvejols qui a pris un carton rouge sévère. Tout le monde me dit que quand même l'arbitre s'est un peu précipité. Et donc à 0-0 et à 10 contre 11, Lunel a fait la différence en fin de match.
Badarou perd aussi 6-3 contre Codognan. Tu te calmes, Laurent, s'il te plaît.
Oui.
Codognan avec un doublé de Pétavin et un but de Pomi au classement. Badarou est 8e.
C'était pas au tennis ?
Non. 23 points, le dernier en a 14, le premier en a 36, donc on est bien au milieu.
Ouais.
Badarou, ouais, qui a été élu cette semaine le
sportif lausérien de l'année.
Lausérien de l'année 2016.
Midi libre.
Par midi libre. Ouais.
Par midi, oui, libre.
Par midi libre, ouais, bien sûr. Parce que mais nous, bravo à eux.
Nous, on choisit des féminines plutôt dans cette équipe.
Ah ben nous, oui. Ah. Nous, équipe de beach volley féminine. Et...
En fait, c'est pas par midi libre, c'est par les lecteurs de midi libre.
Par les lecteurs, voter, exactement.
Le,
ouais,
le président de Badarou, qui était d'ailleurs samedi soir, voir le match de volley.
Mm. Ah oui.
Comme avec quoi, son, hein, avec son vous frère. Attirez tout le monde, mais avec t'as raison. Hein. Ouais,
donc c'est Julien qui était venu dans l'émission, donc les deux frères Dubois étaient au volley samedi.
D'ailleurs, ouais, mais pourquoi on n'organise pas, Amande, des tournois de beach volley l'été? On fout du sable un peu à côté du Lot et on fait des tournois. Vous y avez pensé, ça, Angelo?
On a dit au maire de faire un
même tournoi international. Nous, on veut des joueuses.
Nous, on veut des Brésiliennes.
Non, mais il faut dire au maire qu'il fasse un man de plage. Donc après,
ah oui,
mais il doit le faire normalement. Allez, ok, parfait, on se fait une pause musicale et on se retrouve après pour l'actu nation-international, histoire de faire un bon pronostic, de rigoler la semaine prochaine avec les pronostics d'Aurélien et de Laurent. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, on va regarder. Allez, à tout de suite.
Now, who's the
Allez, c'est reparti, l'actu nation-internationale. On va commencer par le rugby. Donc, on en parlait un peu. On dit toujours des choses intéressantes pendant qu'il y a la musique, que les auditeurs ne peuvent pas nous entendre. On va un peu en reparler maintenant. Angleterre-France, 19-16, 9-9 à la mi-temps, 80 000 spectateurs. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas donner toutes les transformations, les essais, etc. Alors, moi, je ne suis pas extrêmement fan de rugby. J'aime le sport, donc bien sûr, je regarde. Là, j'ai fait l'effort de regarder contre l'Angleterre. Ben, c'est fini, je ne regarderai plus l'équipe de France. C'est fini, voilà.
Tu es frustré.
Ah, je suis frustré.
C'est frustré parce qu'on perd à chaque fois de peu, mais on perd.
Et donc, surtout qu'on doit gagner. C'est surtout ça.
Contre l'Australie, on avait perdu de 2 points. Contre les Néo-Zélandais, de 5 points. Et là, contre les Anglais, de 3 points. Les premières équipes au monde.
C'est un peu Laurent dans les pronostics. Tu vois, c'est il doit dur. Gagner. Ouais. Et voilà. Ça joue à rien. Il perd. Donc, non, mais, tu vois, au bout d'un moment,
c'est vrai que c'est dur parce que tu sens quand même que Novès a amené une certaine grinta, une organisation de jeu, un style. Mais. Alors là, je vais vous dire, moi, ce qui manque à l'équipe de France, il manque des joueurs de talent. Alors, on en a quelques-uns. On a Picamol qui a fait un match.
Il est énorme, Picamol.
Extraordinaire. Mais
Qu'il joue en Angleterre, voilà, donc c'est pour ça.
Voilà, mais sur certains postes, on manque vraiment de talent. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur 2 ou 3 actions où on doit faire la dernière passe pour aller à l'essai. Mais on ne l'a fait pas, en particulier.
Ouais, mais là, c'est plus du talent. C'est juste de la jugeote. On manque de joueurs intelligents, peut-être, surtout.
Ouais. Je croyais avoir entendu qu'en équipe de France, maintenant qu'il y avait le nouveau président, on ne pouvait plus sélectionner des joueurs étrangers comme
ils se faisaient. Non, qui n'ont pas le passeport.
Qui n'ont pas le passeport.
Alors effectivement.
Bah, tout le monde a un passeport.
Effectivement,
passeport français.
Non, mais certains n'ont pas le passeport français, tu as raison.
Tu ne peux plus, mais ce n'est pas une décision qui est rétroactive. C'est-à-dire que les étrangers qui étaient déjà en équipe de France peuvent continuer à jouer en équipe de France.
D'accord.
À partir de maintenant, effectivement, tu ne peux plus.
Parce que je lis Spilling, Nakaitasi, Vakatawa.
Et alors c'est ça la France de nos jours.
Non, mais Vamanina, il est de Wallis et Futuna, donc c'est les territoires d'outre-mer. Là, c'est pas pareil. Non, mais c'est vrai, il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas encore leur passeport français, qui sont en cours de naturalisation. Et donc, c'est vrai que vu la nouvelle règle de la porte, ce genre de joueur ne pourra plus être sélectionné. Et donc, comme le dit Aurélien, comme ils ont déjà commencé leur carrière en équipe de France, ils peuvent la continuer. Mais par contre, tu pourras plus avoir de nouveaux joueurs comme ça.
Vakatawa, il est énorme, hein.
Ah, il a fait
c'est le bourrin, là. On
ouais,
est d'accord.
C'est l'ailier, là.
Je regardais avec mon pote, on se disait, putain, c'est la crampe de
Pulp
Fiction, tu
sais. C'est
ton joker, quoi. Tu le balances et il bourrine.
Parmi les meilleurs joueurs, bon, bien sûr, Picamol, Vakatawa, pour moi, a fait un gros match. Et puis, j'ai bien aimé le petit Serein en demi de Méné qui est promis un bel avenir.
Sort d'où, lui. Clairement, non?
Bordeaux.
Bordeaux-Bagne.
Ouais, il est pas mal,
Il est vraiment pas mal.
Toi, t'as pas pu le voir, Angelo, à 6h.
T'as vu le début?
T'as vu le début, quand même?
Tu peux faire vite fait.
Pour te booster.
Ouais. Pas trop le temps de regarder, après c'était l'heure d'aller à la salle.
Et ouais, tu m'étonnes.
Non, mais c'est vrai que c'est une défaite qui est rageante parce qu'effectivement tu domines toute la première mi-temps et comme souvent avec les Anglais, tu domines mais tu te retrouves à la mi-temps à 9-9 à égalité. Tout ça parce que tu fais des fautes un peu bêtes, tu leur donnes des pénalités faciles à transformer. Donc je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut axer les prochains rassemblements de l'équipe de France sur la discipline, sur les fautes un petit peu bêtes qui ramènent des points à l'adversaire qui sont un petit peu trop faciles. Mais là où je rejoins Patrick, c'est qu'effectivement ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France aussi séduisante. Faut voir d'où on part, messieurs, pendant 4 ans, voire même.
Ils sont partis de Paris, hein.
Voire même 10 ans, on a connu 10 ans de purge. En rugby avec le 15 de France. Donc là, ça fait du bien.
On a été finaliste.
Ouais.
On a perdu contre le Tonga quand même.
Rappelle-toi le jeu qui pratiquait, effectivement. Vrai, ouais. Donc, moi je pense que ça va payer, on est sur la bonne voie. Et puis au moins, on voit qu'il y a un projet de jeu, quoi. Effectivement, avec Noves, on voit qu'il y a un projet de jeu, que c'est réfléchi, qu'il y a des bons lancements. Donc vraiment, on voit que.
Moi je regarde plus, c'est fini là. On a perdu contre les Anglais. Chez
on
doit gagner.
Que tu baisses les bras.
Déjà, tu peux regarder ce week-end. Il y a un très beau match qui les attend contre l'Écosse, puisque l'Écosse a gagné l'Irlande à la surprise générale un petit peu. Donc l'Écosse qui.
On devrait gagner et on va perdre.
Qui va être la surprise de ce tournoi?
C'est à Paris.
Donc c'est à Paris, ouais.
C'est à Paris.
De France.
Dimanche.
Ah, donc ça risque d'être un très très beau match parce que c'est une Écosse qui est très joueuse aussi.
Dimanche à 16h.
Ouais, exactement. Allez, on change la CAN. On va parler de la CAN quand même parce que. Un, on a parié sur la CAN où on s'est tous vautré dans nos pronostics. Et deux, parce que le Cameroun gagne avec un but d'Nkoulou quand même. Patrick,
qui était remplaçant
et Olas
avait dit qu'il voulait absolument s'en débarrasser, mais sans nous, hein, supporter marseillais, Angelo est un grand supporter marseillais, donc il est pas surpris que Nkoulou ne fasse plus l'affaire à Lyon, puisque il nous a fait mourir quasi, bon, au début.
Il a fait
une belle saison ou deux au début, mais alors les deux dernières, hein, moi je devenais fou toutes les fois qu'il touchait le ballon. Et donc là,
quand il jouait avec Lyon, on dirait Laurent Blanc à la grande époque.
Il s'est troué à Lyon. Olas ne le veut plus, et donc il était remplaçant avec cette équipe du Cameroun, et donc il y a un défenseur qui s'est blessé, il est rentré, et en plus il a égalisé, donc il a été déterminant.
Il a été déterminant
pour son équipe, hein. Mais c'est vrai que c'est une surprise que le Cameroun se qualifie, puisqu'il y avait 5 ou 6 joueurs, voilà, soit champion, pardon, il y avait 5 ou 6 joueurs titulaires qui ont refusé de faire un Stokane, donc il y avait quasiment une équipe bis,
et donc c'est champion. Tu oublies de parler de Clinton Ngie,
oui,
qui est champion d'Afrique,
voilà, mais sans jouer,
qui a été le fer de lance de l'attaque du Cameroun.
Il a joué ni la finale, ni la demi-finale. Et je crois que les quarts de finale, il a joué un quart d'heure.
Et Benimo ? Il jouait Benimo ?
Benimo était forfait, puisqu'il est toujours blessé. Il n'a pas encore repris à Marseille. Donc
il
était forfait pour la CAN.
Et puis, il n'est pas camerounais, en plus.
Si,
il est camerounais. Ah ouais. N'importe quoi, toi.
C'est pas sport.
Mais c'est bien que ce soit des inconnus qui gagnent. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai vu la fin. C'était une... Alors, c'est des très près du Cameroun.
C'est très près du Cameroun. La Guinée, c'était...
Et je crois même que le stade est à une trentaine de bornes de la frontière, donc du Cameroun. Ouais. Donc, il y avait plein de Camerounais. C'était génial comme ambiance. Très beau match, là. Je les appelle avec Lyon-Saint-Etienne. Et Portland contre qui jouait ? Contre Oklahoma City. Très beau match, Laurent. Tu as dû te régaler.
Il y a eu combien ?
Ah ouais, ça dure trop longtemps, j'ai pas vu la fin. Tu sais, les matchs de basket, NBA, ça commence à 21h.
C'est Oklahoma qui a gagné.
Ouais, voilà, ça m'étonne pas. Ok, très bien. Metz, est-ce qu'on parle de Metz-Marseille ? Tiens, vu que Angelo aime Marseille. Non, on n'en parle pas.
Non, on n'en parle pas.
Il y a trois supporters marseillais sur 5 dans la salle.
Il y a eu un turnover qui nous a été fatal.
Incroyable.
Ah, t'es contre Metz, c'est bon, tu peux mettre la CFA.
Pourtant, Bounassar en attaque, c'est du bon, ça, non ?
C'est bon, ça, Bounassar.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal, mais a priori, c'est pas suffisant.
Non.
Et non, mais c'est vrai qu'on a recruté Patrice Evra, il a fait un match, il s'est blessé, donc bon, c'est pas évident. Hein. On a fait encore des recrues à la con, je le sens venir. Patrick Evra me fait penser quand même beaucoup à Lizarazu quand il est venu en fin de carrière. C'est sûr qu'il a des beaux discours, il parle bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est des mecs qui soient sur le terrain pour commencer.
La semaine dernière, il nous disait on a l'aile gauche de l'équipe de France.
Maintenant,
l'autre, il est trop vieux.
Là, on avait Doria arrière gauche, je te signale. Et je suis un peintre.
D'entrée de match, tu n'as pas Evra, tu n'as pas Gomis.
T'as vu comme ils sentent, tu leur dis on parle pas de Marseille, tu dis non.
Il n'y a pas Payet,
exactement. Donc,
c'est qui Payet?
Ça fait une défaite.
Non, et puis on a un goal quand même, qui prend un but en plein milieu des barres.
Non, mais il se désintègre, c'est pas lui qui fait ça.
Comme un squelette,
une marionnette.
Mais on le sait. En plein milieu, ma grand-mère aurait arrêté. C'est en plein milieu.
C'est le quatrième coup franc direct qu'il prend, je crois que c'est jamais vu dans une saison.
Le mec, il fait 2m50 et il se prend un
but. Ah, mais je te le dis que Mandanda a déjà signé. Donc Mandanda va revenir l'année prochaine.
C'était à la trêve là qu'on aurait aimé avoir un goal.
Bah, allez, parlons des matchs intéressants. Deux matchs intéressants. On va parler bien sûr du derby. Et également avant Monaco-Nice, le deuxième contre le premier. Et maintenant, on a le premier contre le troisième. C'est-à-dire que Monaco a gagné 3-0. Nice est rétrogradé à la troisième place. Monaco premier.
Beau
tirage de Coupe de France d'ailleurs pour Marseille-Monaco. Là.
J'espère
bien
qu'ils mettront la CFA. Pour justement préserver.
Pas qu'il se blesse.
Préserver, il y a la Ligue des Champions, tout ça. Bon, il faut faire attention. Il faut lui dire à Jardim qu'il fasse attention. Donc, voilà. J'espère que Monaco sera champion parce que, à mon avis, c'est le plus beau football de cette année. Donc, je pense qu'il mérite d'être champion devant Paris.
Ouais, je suis d'accord. Sur ce match, non, rien de plus à dire. Attends, c'était Nice quand même. On dit, Nice, attention, ils en prennent 3, quoi.
Non, je pense qu'il y avait vraiment un écart entre les deux équipes.
À Nice, ils ont baissé un peu quand même depuis la trêve.
Ben oui.
Ils ont du mal, ouais.
Nice, on va le reprendre un peu.
Ils ont quelques joueurs qui étaient partis à la CAN, effectivement, ça leur a pas fait du bien. Ouais.
Non, mais là, ça revient. Là.
Mais c'était pas les Camerounais. Les mecs qui reviennent à la CAN, ils reviennent, il leur faut quand même un mois pour se retaper. Quoi.
Non, mais c'est bien, Zidias, ils finissent dans les trois premiers. Les troisièmes, ils feront les barrages pour la Ligue des Champions. Après, avec le quatrième, on voit que Lyon se désintègre aussi. Donc, ils devraient quand même réussir à sauver la troisième place.
C'est sûr, parce que Lyon est quand même toujours là, malgré tout.
Ils ont 12 points d'avance sur Lyon.
Il y a un match en retard aussi, c'est un match contre Metz.
pas.
2-3 échecs.
C'est vrai qu'il va falloir qu'ils soient au point,
quand même. Ça fait plusieurs fois que Laurent ne croit pas à Nice sur le podium.
Non, j'y crois pas. J'aimerais beaucoup parce que je les ai vus jouer la semaine dernière. Je crois que c'était contre Guingamp. Ça joue bien, c'est intéressant. C'est une belle équipe. Maintenant, on voit qu'au niveau des résultats, ça dégringole. Quoi. C'est un fait. Mais j'aimerais bien qu'ils soient dans les premiers. Après Marseille, bien sûr, mais qu'ils soient dans les premiers.
Ok, non mais Marseille, ils sont à quoi? 33 points, ouais. À la cinquième place pour l'UFA, c'est bien pour Marseille,
c'est ça.
L'UFA.
C'est l'objectif.
Bon, alors on parie sur quel match cette semaine?
Alors, le gros match de cette semaine, c'est bien entendu Montpellier-Monaco, évidemment.
Voilà. Qui se joue demain,
donc attention à vos pronostics, parce que mercredi, lors de la rediffusion de cette émission, mercredi soir à 19h, le match...
Vous aurez la réponse.
Alors, ne dites pas n'importe quoi. Allez, on va faire commencer Laurent. Moi, j'attaque. Je reste sur la fin parce que de toute façon.
Donc, Montpellier-Monaco, 0-5.
et régalez-vous pendant la rediffusion de cette émission. Je repasserai 0-5. Les bandes en plus pour qu'on réécoute lundi prochain. Aurélien, vas-y.
Montpellier-Monaco, moi, je vais dire 0-4.
C'est trop laid, quoi.
Et je dis que 4 buts parce que je pense que Monaco va faire tourner un petit peu, étant donné que c'est un match à milieu de semaine. Donc je dis qu'il va y avoir que 4 buts. Mais sinon. Mais
attends, il y a Congrès qui va rentrer. Attends, tu fous, toi.
Voilà, 0-4.
Allez.
1-3 pour Monaco.
Merci, Patrick. C'est pas encore ça, mais c'est mieux.
Ah, j'allais dire la même aussi.
Bah, tu peux dire la même.
3-1 pour Monaco aussi.
3-1 pour Monaco. De toute façon, il faut mieux dire comme Patrick qu'on a tic et tac parce qu'ils disent n'importe quoi. Ok, donc.
Et toi
bah, victoire de Montpellier. Est-ce qu'on va peut-être pas prendre de but? Jourdain est revenu. Il est pas trop nul en ce moment. On va peut-être. C'est où 1-0 ou 2-1. Je vais prendre des risques. Je vais dire un gros 1-0 de Montpellier.
Ah ouais.
Ouais ouais, évidemment.
C'est-à-dire que la meilleure attaque d'Europe qui marque 4
buts, ils sont à 5 buts, hein.
4 buts par match,
comme le Barça
contre la plus faible défense.
Bon, c'est bon, d'accord. 2-1 pour Montpellier. Voilà. Très bien, on va leur laisser un but.
Alors, si
OK, il nous reste une minute, Lyon Saint-Étienne, beau match des Verts, hein.
Ouais, chapeau, Saint-Étienne Lyon,
Saint-Étienne-Lyon, plus.
Là aussi une ambiance dans le stade complètement hallucinante. Même dans ton fauteuil, tu sentais un match électrique. Et d'ailleurs, Lyon a pété les plombs à la fin avec deux cartons rouges. Bon, et sur des actions vraiment, surtout la deuxième, un tacle de Tolisso sur le moine. Bon, il est parti directement dans le vestiaire. On comprend pourquoi quand tu vois le ralenti. Quoi.
Ouais. Et qui c'est qui a pris le deuxième carton rouge?
C'est Guézal qui a pris un deuxième jaune sur deux fautes aussi de frustration. Alors après, il a chambré l'arbitre, il a tendu la main pour. Enfin bon, bref, c'est.
Pour lui serrer la main.
Ouais, pour lui serrer la main. Bon, mais
il faisait. Ça, non, mais il faisait.
Ça dès que sa main, que c'était ironique. Hein. Là, tu lui mets le deuxième jaune, il tend la main. Bon, l'arbitre lui a serré la main, mais bon, c'était quand même. Bon, c'était Chaperon aussi, donc on connaît.
Ouais.
On connaît Monsieur Chaperon.
Moi, j'ai toujours serré la main aux arbitres quand j'ai pris un carton rouge, monsieur.
Ah.
Certains, je leur ai même fait la bise.
Tu es un grand chambreur.
Ouais, c'est vrai. Mais t'en as pas pris beaucoup, toi.
Hein?
T'en as pas pris beaucoup de cartons rouges.
Non.
Quelques-uns, juste.
Quelques-uns.
On s'arrête là.
Une saison, j'ai pris 15 matchs de suspension.
Ouf. Ouais. Ah ouais, c'est vrai?
Ouais,
sur un seul match?
Quoi? C'était pas ma faute, en fait. C'était une incompréhension totale. Non, sur deux matchs.
Ah, sur deux matchs. Mmh. D'accord.
Enfin, sur deux cartons.
On va penser à
un petit désaccord avec l'arbitre, c'est tout.
Pas beau, ça.
Ouais.
Faudra que tu nous racontes le jour.
Ouais. Je peux vous raconter, mais.
On va le suspendre. Tu vas nous raconter hors antenne. Allez, ciao les gars, merci, c'était sympa. On se retrouve lundi prochain. Merci Angelo, on vous suit, hein. On
merci.
Monte là cette année. Hein.
Merci à vous. Merci on est avec vous là.
Merci. Allez, merci. On est avec vous.
Merci,
ciao, les gars.
Bye bye.
Ciao.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.